France Culture, il est midi 31. Le journal Antoine Mercier, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Vers un quatrième mandat de chancelière pour Angela Merkel. Accord de gouvernement conclu ce matin entre conservateurs et sociaux-démocrates. Correspondance de Pascal Thibault dans un instant. En France, le rapport annuel de la Cour des comptes qui met en garde le gouvernement contre tout relâchement dans la lutte contre les déficits, compte rendu de Marie Viennot. D'importantes chutes de neige sèment encore la pagaille, notamment en région parisienne. La situation pourrait devenir critique la nuit prochaine avec la chute annoncée des températures, l'apparition de gelées sur les sols enneigés. On va faire un point avec François-Pierre Noël. Et puis à propos de la prévisibilité de ces intempéries, le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, affirme qu'il est difficile d'anticiper le nombre de centimètres de neige qu'il va tomber. Commentaire de Mélanie Juvet. Le lancement d'une fusée de la société américaine SpaceX hier soir à Cap Canaveral en Floride. Elle a le projet de pouvoir mettre en orbite terrestre jusqu'à 70 tonnes de charge. C'est Nicolas Martin qui viendra nous en parler. L'invité de la séquence interview, Patrick Devedjian, président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Et dans la dernière partie de la grande table, Olivia Jesbert.
Une élection qui en dit long pour le grand sociologue qui poursuit aujourd'hui sa réflexion autour des changements du politique dans Macron par Touraine qui paraît aux éditions de l'Aube. Emmanuel Macron est-il un enfant du nouveau siècle politique tel que l'avait pronostiqué en 2016 Alain Touraine, justement, dans un précédent essai paru au Seuil. Il sera notre invité à partir de 12h55.
C'est donc le déblocage en Allemagne après plus de 4 mois d'impasse politique. Un accord de gouvernement conclu au petit matin entre conservateurs et sociaux-démocrates. Compromis obtenu difficilement après des semaines de tractations et un dernier round qui a duré près de 24 heures. Négociations ininterrompues. Compromis qui reste d'ailleurs encore suspendu à un vote des militants du Parti social-démocrate qui est prévu dans les semaines à venir. L'ultime séance de discussion avait donc débuté hier matin 10h. Elle s'est achevée ce matin. Les sociaux-démocrates obtiendraient des ministères comme celui des finances, des affaires étrangères et aussi des affaires sociales. La correspondance de Pascal Thibault.
Habemus Groco, en tout cas un accord entre les trois partis qui négocient depuis près de 10 jours pour mettre en place jusqu'en 2021 un nouveau gouvernement de grande coalition, le troisième associant chrétiens et sociaux-démocrates depuis l'arrivée au pouvoir d'Angela Merkel en 2005. La dernière journée de négociation a duré près de 24 heures. Les discussions achoppaient notamment sur une réforme de l'assurance maladie pour réduire les inégalités entre médecine publique et privée, mais aussi en raison de la volonté du SPD de réduire l'utilisation des CDD par les entreprises. La répartition des postes ministériels qui circulent déjà dans les médias est plutôt en faveur du SPD et montre qu'Angela Merkel a dû lâcher du lest. Les sociaux-démocrates conserveraient les ministères des Affaires étrangères, avec le chef du parti Martin Schulz à l'avenir, et celui du travail, et le SPD arracherait aux conservateurs les finances. Cela peut avoir des conséquences sur la politique européenne en raison du soutien du SPD aux propositions d'Emmanuel Macron. L'accord de gouvernement prévoit que les prochaines années soient placées sous le signe de la relance de l'Europe. Ce texte doit encore être approuvé par les 463 000 membres du SPD qui vont être consultés dans les 3 semaines qui viennent. En cas de vote favorable, le gouvernement Merkel 4 pourra être mis en place le mois prochain.
La guerre en Syrie avec de nouvelles frappes aériennes ce matin du régime syrien contre la Ghouta, cette Ghouta orientale qui est l'enclave rebelle à l'est de la capitale Damas. Au moins 7 civils tués, 35 blessés. C'est le troisième jour consécutif de ces frappes qui ont fait depuis lundi 120 morts. Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian estime que toutes les indications tendent à prouver effectivement que le régime de Damas utilise du chlore en ce moment dans le conflit. Et puis à propos de la loi polonaise qui punit de prison toute personne qui accuse la Pologne de participation au crime nazi, M. Le Drian affirme qu'il ne faut pas réécrire l'histoire. Il juge condamnable donc la position du président Duda, le leader nationaliste du parti Droit et Justice, qui a décidé hier de promulguer cette loi. À l'étranger, encore en visite à Tokyo, le vice-président américain Mike Pence annonce le prochain dévoilement de nouvelles sanctions économiques contre la Corée du Nord, les plus offensives, dit-il, les plus offensives jamais prises contre ce pays. Mike Pence qui s'exprimait au deuxième jour d'une étape de 3 jours au Japon sur le chemin des Jeux Olympiques d'hiver qui vont s'ouvrir ce vendredi en Corée du Sud et où il va diriger la délégation américaine. Nous ne permettrons pas à la propagande de Corée du Nord de prendre en otage, dit-il, le message et l'image des Jeux Olympiques. Retour en France avec le rapport annuel de la Cour des comptes. Fidèle à sa tradition, la Cour met une nouvelle fois en garde le gouvernement contre tout relâchement dans la lutte contre les déficits. Rapport annuel donc rendu public ce matin qui appelle à mettre en œuvre sans retard des réformes structurelles pour, disent-ils, réduire le niveau des dépenses publiques en France. Bonjour Marie Biennot.
Bonjour Antoine.
Vous étiez donc à cette conférence de presse qui annonçait le rapport de la Cour des comptes. On a pourtant l'impression que sur ce domaine, réformes structurelles, essayer de réduire les déficits, le gouvernement ne chôme pas vraiment.
Alors, le rapport annuel de la Cour des comptes est un énorme document de plusieurs centaines de pages qui analyse de très nombreuses politiques publiques et on retrouve en effet cette année plusieurs chantiers emblématiques du gouvernement. Sur les contrats aidés, la Cour juge que le dispositif passé est peu efficace en termes de réinsertion professionnelle. Entre 2012 et 2016, l'État a alloué 13,6 milliards d'euros pour cette politique, mais au final, un tiers des signataires d'un contrat aidé dans le public et 54% dans le secteur marchand ont décroché un CDD d'au moins 6 mois ou un CDI, 6 mois après avoir quitté le dispositif. Pour la Cour, il faut réduire la voilure, ce que fait le gouvernement en prévoyant de diviser par deux, en gros, le nombre de ces emplois aidés. Mais il faudra, dit la Cour des comptes, assurer un suivi des bénéficiaires. Autre chantier du gouvernement, la politique vaccinale, jusqu'alors mal coordonnée et insuffisante, dit la Cour, qui salue le passage de 3 à 11 vaccins obligatoires comme une clarification attendue et nécessaire, mais qui, je cite, ne suffira pas à rétablir durablement la confiance. Sur les finances publiques, la Cour des comptes met en garde, comme vous l'avez dit, le gouvernement contre tout relâchement. Certes, en 2017, le déficit public rapporté au PIB sera passé en dessous de la barre des 3% pour la première fois depuis 10 ans. Mais l'amélioration est principalement imputable à la conjoncture, selon la Cour des comptes, liée à une croissance qui peut ne pas durer dans le temps. Alors la Cour des comptes appelle à mener des politiques structurelles et là aussi cela fait écho avec la réforme de l'État et des services publics qui prévoit notamment un plan de départ volontaire pour les fonctionnaires. Beaucoup de points de convergence donc, mais pas de validation a posteriori de la politique gouvernementale, précise le premier président Didier Migaud, ces thèmes étant récurrents dans les travaux de la Cour des comptes.
Marie Biennot, merci beaucoup. À propos des fonctionnaires, il y a 7 syndicats de fonctionnaires qui appellent à une journée de mobilisation. Ce sera le 22 mars prochain pour protester notamment contre ces annonces du gouvernement sur la réforme de la fonction publique. Ils dénoncent notamment le plan dit Action publique 2022, présenté au début du mois, qui prévoit un recours accru aux contractuels, la mise en place d'un plan de départ volontaire donc pour les fonctionnaires. Nous saluons l'invité de la séquence interview, Patrick Devedjian. Bonjour.
Bonjour.
On va parler avec vous tout à l'heure de cette grève, de ce mouvement, cette mobilisation dans les départements aujourd'hui. Un mot peut-être plus général sur la situation politique et sociale. Il y a 4 mois, vous disiez sur France Info que le président était brillant et vous notiez qu'il appliquait finalement une partie non négligeable du programme de la droite. Donc est-ce que vous continuez à lui accorder un satisfecit global sur sa politique ?
Oui, je n'ai pas changé d'avis sur ce point. J'apporte quand même un bémol à ça, que j'avais déjà exprimé à ce moment-là, mais que je renforcerai aujourd'hui. Il n'y a pas de politique de réduction de la dépense publique. Et ça, c'est assez grave, au-delà des clivages entre la gauche et la droite, parce que c'est une menace terrible pour l'avenir. Nous sommes presque 100% du PIB de dette publique. Et si nous avons une variation des taux d'intérêt, nous explosons.
Mais est-ce que M. Macron ne fait pas plus que les gouvernements de droite qui ont précédé ?
Oui, je l'ai dit. Oui. Par exemple, sur l'ISF, la droite a dit qu'elle supprimerait l'ISF parce que c'était un obstacle à l'investissement. Macron en a fait une bonne partie. Il n'a pas tout fait. La droite lui reproche, mais il en a fait plus qu'elle.
Patrick Devedjian, vous restez avec nous pour la suite de cette édition. On salue aussi l'invité de la dernière partie de la Grande Table, le sociologue Alain Touraine. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous aussi, vous aviez manifesté votre soutien, en tout cas votre approbation sur cette nouvelle direction qui était prise grâce à Emmanuel Macron en France ? Est-ce que vous confirmez, 6 mois après son élection, votre diagnostic plutôt optimiste ?
Oui, enfin, entendons-nous bien. Je dis deux choses. Premièrement, il y a écroulement de tout le système politique français, droite et gauche réunies. Et deuxièmement, celui qui est venu dans le vide se trouve faire des choses plutôt bien. D'ailleurs, il ne peut pas faire des choses mal puisqu'il n'y a plus rien. Alors, est-ce que la question qui se pose, c'est est-ce que ça va se relever, les ruines du système politique, et on pourra à la limite se passer d'un président sauveur, ou au contraire, est-ce que le rôle du président sauveur se renforce parce que le système politique ne montre pas de capacité de se redresser. Donc, c'est ça le problème.
Et vous dites quoi, vous, personnellement?
Je pense que pour l'instant, on a de plus en plus besoin d'un président sauveur.
Merci.
Ce qui ne me plaît pas tellement. Parce qu'on ne fait pas de démocratie sans droite et sans gauche et sans représentant du peuple. Il n'y a pas de représentant du peuple.
Voilà, c'est toute la problématique sans doute qu'on abordera avec vous dans la dernière partie de la Grande Table. Merci beaucoup Alain Touraine. Au second jour de sa visite en Corse, Emmanuel Macron doit dévoiler ce soir sa stratégie pour l'avenir de l'île. Le chef de l'État doit prononcer en effet un discours devant plusieurs centaines de personnes qui sont rassemblées dans un centre culturel à Bastia. Ont été invités notamment les maires, mais aussi les deux hommes forts de l'île, l'autonomiste Gilles Séméoni qui dirige l'exécutif et l'indépendantiste Jean-Guy Talamoni à la tête de l'Assemblée de Corse. Et d'ailleurs, les principaux élus nationalistes ont décidé tout à l'heure de boycotter le déjeuner républicain auquel les avait conviés pourtant Emmanuel Macron à Bastia. Écoutez à ce propos la réaction du chef de l'État.
Il y a ce qui s'appelle la courtoisie républicaine. Quand des élus locaux décident de ne pas se rendre à tel ou tel rendez-vous, c'est leur choix à eux. Mais moi, ce qui m'importe, c'est le peuple français, son avenir dans tous ces territoires et en particulier en Corse. Je suis sur le fond, ce que font les entrepreneurs, les chercheurs, les enseignants, ce qui est important pour la jeunesse de l'île et son avenir, ce dont je parlerai cet après-midi. Je ne suis pas dans les arrières-cuisines.
Voilà, Emmanuel Macron tout à l'heure, donc à Bastia, au micro de Ludovic Piétenu, qu'on retrouvera tout à l'heure à 18h pour le compte-rendu du discours donc, que doit faire le chef de l'État. À 5h ce matin, Météo France relevait donc 12 cm de neige à Paris-Montsouris, 13 à Roissy et Orly, 14 cm à Orléans, 15 cm à Chartres. La neige a semé, sème encore d'ailleurs un peu la pagaille, notamment en région parisienne, des automobilistes qui ont été bloqués sur les routes, des transports perturbés. François-Pierre Noël, bonjour.
Bonjour Antoine.
Bon, d'abord, où est-ce qu'on en est à la mi-journée?
Alors, la situation s'améliore doucement, notamment en Ile-de-France, où l'épisode neigeux a gêné de milliers d'usagers. Ils étaient nombreux à attendre sur le quai des différentes gares parisiennes ce matin. Peu de TGV ont été supprimés. Ils roulent simplement moins vite sur les voies. En région parisienne, moins d'un train sur deux circule normalement. Ce sont surtout des Transiliens qui sont supprimés ou retardés, notamment dans les gares de Paris-Saint-Lazare et gare Montparnasse. Le retour à la normale n'est d'ailleurs pas encore prévu par la SNCF. Et sur les routes, les automobilistes parisiens ont bien entendu le message du gouvernement ce matin, celui de ne pas prendre la voiture. Le trafic est ralenti, mais il n'est pas embouteillé comme hier soir, où Bison Futé avait recensé plus de 700 km de bouchons. Et ce matin, il y avait d'ailleurs moins d'embouteillages en région parisienne que lors d'un matin classique sans neige ni problème climatique.
Voilà. Et hors de Paris, comment ça se passe?
Alors, les chutes de neige empêchent les transports en commun de circuler. Par exemple, à l'aéroport de Beauvais, 1000 voyageurs sont restés coincés cette nuit car les bus ne pouvaient plus rouler pour les amener à Paris. Et ce matin, c'est au tour des bus scolaires d'être restés bloqués sur les parkings dans plusieurs départements. Par exemple, en Essonne, les écoles sont fermées à la demande de la préfecture. Des arrêtés préfectoraux qui se multiplient depuis ce matin. Dans l'Oise, le préfet interdit, comme dans d'autres départements avant lui, les poids lourds de circuler sur les routes enneigées.
Alors, la situation, attention, pourrait devenir critique la nuit prochaine, parce qu'on annonce une chute importante des températures, jusqu'à moins 10 degrés, avec l'apparition de gelées sur ces sols enneigés.
Oui, attention, verglas cette nuit, vous l'avez dit, la fonte de la neige va accumuler de l'eau sur les routes, et avec la forte baisse des températures attendues cette nuit, entre moins 6 et moins 10 degrés, les routes dans les départements touchés par la neige risquent de ressembler à des patinoires. Météo France demande donc aux automobilistes qui prennent la voiture de faire très attention demain matin avec cette chaussée glissante.
François-Pierre Noël, merci beaucoup. Alors, comme c'est le cas généralement dans ce genre de situation d'intempéries, il y a des polémiques qui naissent sur le fait de savoir si on aurait pu prévoir ou pas. En tout cas, il y a des personnes qui s'étonnent, assez nombreuses, que de telles chutes de neige ne puissent pas mieux s'anticiper. Mélanie Juvet, vous avez enquêté pour nous ce matin.
Oui, ce matin, Pierre Chasseret, le délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes, dénonçait sur LCI un manque d'information des pouvoirs publics, alors que cet épisode était prévu par Météo France depuis quelques jours. Il fallait interdire 24 heures avant les chutes de neige de rouler dans Paris, estime de son côté le président de la Fédération des Transports, CFTC, Thierry Douine sur France Info. Le problème, selon eux, c'est que la ministre des Transports, Elisabeth Borne, n'est intervenue hier qu'à 15h pour conseiller aux usagers de ne pas prendre leur véhicule trop tard pour les personnes déjà au travail. Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, s'est défendu chez nos confrères d'RTL. Pour lui, il n'y a pas eu de problème d'anticipation et de procédure des pouvoirs publics.
Arrêtons de faire croire n'importe quoi aux Français. Il est difficile d'anticiper le nombre de centimètres qu'il va tomber. Quand vous salez, une route, quand vous salez de la voirie, jusqu'à 3 ou 4 cm, le sel est efficace. Au-dessus de 3 ou 4 cm, et on est bien au-delà, puisqu'on est sur 15, 20, 25 cm dans certains endroits, le sel est inopérant. Il est difficile de savoir, le matin à 8 heures, si les routes seront bloquées à 14 heures. Dans l'immense majorité des cas, la prévention, évidemment, est la meilleure des politiques. C'est ce que nous avons fait, et c'est ce qui a été fait par les préfectures, par la
Il n'y a eu aucun retard, aucun défaut.
Non.
Benjamin Griveaux renvoie la balle à la SNCF et la RATP concernant des carences d'information pour les voyageurs. Le site de la RATP était momentanément indisponible ce matin. Et du côté de Météo France, les prévisionnistes indiquent que des bulletins météo sont tombés toutes les 3 heures lundi, dès midi, liés à l'alerte neige et verglas. Des bulletins qui prévoyaient pourtant déjà les 15 cm de neige qui pouvaient arriver en Île-de-France.
Merci Mélanie Juvet. Bon, Patrick de Bédjian, un tout petit mot là-dessus. Vous avez fait ce qu'il faut dans votre département des Hauts-de-Seine.
On a fait ce qu'il faut, oui. Les voies départementales d'ailleurs ont été dégagés à temps et en bonne circulation. Ce qui est arrivé, le principal incident, c'est sur la 118, c'est-à-dire la côte de Brimborion. On sait depuis toujours que c'est une pente très raide et qu'en cas d'intempérie, elle est difficilement accessible. Il fallait la fermer plus tôt et c'était tout à fait prévisible. Mais c'est l'État et pas les départements.
Voilà, on reparlera des départements tout à l'heure dans quelques minutes avec vous. Patrick de Bédjian, on dit d'abord un mot de cette fusée avec 27 moteurs mis à feu simultanément, composée de 3 lanceurs arrimés côte à côte, fusée de 70 mètres qui a donc décollé hier soir de son pas de tir du centre spatial Kennedy à Cap Canaveral en Floride. C'est celui-là même qu'utilisait il y a maintenant 40 ans les fusées du programme lunaire Apollo. Mais cette fois, c'est une société privée qui est aux commandes, la société américaine SpaceX, qui présente donc sa fusée comme la plus puissante du monde. Nicolas Martin, bonjour.
Bonjour Antoine,
alors,
bonjour
à tous. Alors la plus puissante, à quoi ça ressemble?
Ben, ça ressemble à ce que vous venez de décrire, hein, c'est-à-dire une fusée, en fait trois fusées. Le Falcon Heavy, ce sont trois Falcon 9 qui est la fusée, le lanceur aujourd'hui qui est utilisé par SpaceX, notamment pour aller ravitailler la station spatiale internationale. Et c'est un vrai défi technique, hein. Elon Musk l'avait dit. Il l'a fait une fois de plus alors qu'on ne l'attendait pas, qu'on s'attendait à un accident. Bref, vous savez, c'est des gros défis techniques, hein, mettre 3 moteurs de fusée, 27 moteurs côte à côte, les faire décoller sans incident, les envoyer dans l'espace, et en plus avec ce défi supplémentaire qui est que 2 des 3 boosters sont revenus et donc sont réutilisables.
C'est pas la même chose que les fusées Apollo quand même.
Pas Apollo, mais c'est la même chose que Saturn V.
Ah, c'est Saturn V.
Ça, ouais, c'est à peu près le même, c'est même plus puissant que Saturn V qui ont envoyé le module Apollo, qui est un module de la fusée dans l'espace et sur la Lune.
Alors, de la coiffe de la fusée, on a beaucoup vu, est sortie une voiture décapotable, rouge, de Tesla, qui est l'autre entreprise phare d'Elon Musk, donc le PDG de cette entreprise, où était joué Space Oddity de David Bowie. Le mannequin qui l'habite, donc Starman, était au volant de la voiture, le bras gauche nonchalamment posé sur la portière. Sur le tableau de bord, il y avait le message « Don't panic », référence au guide du voyageur galactique, célèbre roman de science-fiction. Bon, tout ça, ça fait penser quand même un peu, indépendamment du projet industriel, à une performance. C'est-à-dire qu'on a voulu marquer les esprits et peut-être faire un geste artistique contemporain.
Alors, un geste artistique, certainement pas. Vous savez, ces vols-là, ce sont ce qu'on appelle les vols de qualification. Hein. C'est-à-dire qu'avant d'envoyer des choses, de servir de nouvelles fusées, de nouveaux lanceurs pour mettre des choses en orbite ou pour faire des voyages, pourquoi pas, on fait d'abord des vols de qualification. Parfois, on en fait 1, 2 ou 3. Là, c'est le premier vol et c'est le premier vol qui réussit. Donc, évidemment que c'est de la communication, mais c'est de la communication spatiale comme aujourd'hui tout le monde fait, y compris les agents nationale. Regardez la mission Rosetta et Philae. On a suivi le dialogue sur Twitter de la sonde avec son petit robot. Enfin bref, c'est de la communication spatiale et c'est normal. Il y a une vraie prouesse technique, encore une fois. Hein. Il faut se rappeler.
Enfin,
tout
il
ne
va
même
pas nous amener sur Mars.
Alors, c'est son projet. Il le dit pour 2024. Oui. Mais souvenez-vous, quand il parle de fusée réutilisable, hein, sa Falcon 9, il le dit, personne ne le croit. Aucune agence spatiale ne veut dire aujourd'hui on peut faire une fusée réutilisable. Il le fait en moins de 10 ans. Kennedy a envoyé des hommes sur la Lune en moins de 10 ans. Alors, je ne dis pas qu'Elon Musk est le nouveau Kennedy ou va réussir à envoyer des hommes sur Mars d'ici 2024. C'est certainement trop tôt. Mais bon, il y aura un peu de retard. C'est son ambition, il l'affiche. Il vient de réussir, là, un succès industriel incontestable avec le Falcon Heavy, qui est les prémices de sa grosse fusée, hein, qu'il appelle le BFR, le Big Falcon Rocket, qui, lui, sera normalement capable d'envoyer des êtres humains dans l'espace, peut-être sur Mars, mais d'abord dans l'espace dans
Alors,
les premiers temps.
Un tout petit mot. Est-ce qu'il faut retenir de ça le fait que que c'est le privé finalement qui se saisit de la conquête spatiale ou de toutes ces questions.
Il faut retenir de ça que c'est la victoire indiscutable de ce qu'on appelle le New Space. Pendant des années, pendant des dizaines d'années, l'espace a été le fait unique d'agence spatiale publique. Depuis les années 2000, l'espace est aujourd'hui un domaine dans lequel le privé, la baisse des coûts, la concurrence a donné un nouveau visage, mais en même temps a relancé l'exploration spatiale qui était devenue un peu le parent pauvre hein, de la recherche scientifique parce que ça coûte très cher, parce qu'il n'y a pas beaucoup de retour sur investissement, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'applications concrètes scientifiques. Et bien aujourd'hui, Elon Musk avec SpaceX, mais aussi Jeff Bezos pour New Origin, pour ne parler que d'eux, ont remodelé le visage de la conquête spatiale.
Nicolas Martin, merci beaucoup. Retour vers notre invité, Patrick de Bedjean, président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Les présidents de sept départements d'Île-de-France, des sept départements d'Île-de-France qui étaient soutenus par le président du Sénat, Gérard Larcher, s'oppose, on le sait, à une éventuelle disparition de ces mêmes départements, de la Petite Couronne, dans le projet du Grand Paris. Ils avaient décrété aujourd'hui un mouvement de mobilisation donc de ces départements. Fiona Bogadam, avant d'entendre notre invité, peut-être une petite précision sur ce projet.
Voilà, donc avec la fermeture totale ou partielle pour aujourd'hui des services publics départementaux en Île-de-France et des rassemblements ce matin pour protester contre une éventuelle disparition donc des trois départements de la Petite Couronne, à savoir les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis, au profit d'une seule entité, le Grand Paris. Vous l'avez compris, les départements franciliens ne veulent pas entendre parler d'un tel projet, refusent de perdre leurs compétences en matière de petite enfance, d'éducation, de handicap, d'aide sociale ou encore on ne peut plus d'actualité de route. L'inquiétude pour les élus, c'est de voir ces compétences transférées en partie selon le scénario envisagé à des établissements publics territoriaux, sortes de grandes intercommunalités qui recouvrent l'ensemble de la future métropole. Les décisions seraient alors prises encore un peu plus loin. Des administrés regrettent les élus. Et les quatre autres départements franciliens, à savoir l'Essonne, le Val-d'Oise, les Yvelines et la Seine-et-Marne, craignent quant à eux d'être mis à l'écart et que se renforcent les inégalités entre les territoires.
Patrick de Bedjean, vous étiez... Vous disiez que le gouvernement ne faisait pas assez d'économies encore de dépenses publiques. Est-ce que ça, ce n'est pas une réforme aussi qui va dans ce sens-là ?
Non, ça va coûter plus cher.
Oui, c'est vous qui le dites. Mais
ben
peut-être
non,
que
je vais essayer de vous le démontrer très facilement. D'abord, il y a trois départements, 138 élus du suffrage universel pour en assurer la gouvernance. Et le projet, c'est de répartir les compétences à 11 établissements publics territoriaux, c'est-à-dire... 11 structures différentes avec 11 administrations.
C'est-à-dire,
et par exemple, dans mon département, les collèges, les 100 collèges publics sont gérés par une seule structure, le département. Le projet, c'est de les répartir entre 4 structures, donc 4 administrations différentes. Donc
alors,
on va augmenter
exemple,
la dépense publique.
Les 4 administrations pour
comment
ça
rien que pour les Hauts-de-Seine.
Oui, mais ça serait quoi les 4 administrations?
C'est les établissements publics territoriaux qui ont été constitués à la fin de l'année 2017. Qui sont tout neufs et qui ont une administration embryonnaire qu'il faudra reconfigurer et qui prendra du temps avec un fameux trou d'air le temps que ça soit opérationnel.
Fiona Bogadam.
Et en même temps, aujourd'hui, on a 6 niveaux de collectivités dans la région.
Vous avez raison.
On ne peut pas continuer
oui,
comme ça.
Oui, mais moi je suis tout à fait pour la simplification. Je rappelle qu'en 1998, il y avait 3 niveaux. La commune, le département, la région... les différents gouvernements, surtout la gauche, depuis, en a inventé 2 supplémentaires. L'État, en réalité, a inventé 2 supplémentaires, l'intercommunalité et la métropole. Ça fait 5. Bon, il faut simplifier, mais celui qui a compliqué, c'est l'État. Maintenant, l'État dit qu'il faut simplifier. Ben, simplifier, ça n'est pas faire 11 sous-départements à la place des 3 existants.
Et qu'est-ce qu'il faudrait supprimer selon vous alors ?
Eh bien, l'intercommunalité, la France d'ailleurs est le seul pays au monde à avoir fabriqué ça parce qu'on n'a pas eu le courage de regrouper nos communes. Dans tous les pays d'Europe, on a regroupé les communes. Sauf en France, on a inventé une usine à gaz qui s'appelle l'intercommunalité et qui fait une structure de plus et qui fait du personnel en plus et de la dépense publique en plus. Donc c'est l'inverse de ce qu'il faut faire.
Comment se déroule maintenant votre combat pour maintenir... éviter ce projet, combattre ce projet ?
Mais nous avons fait de la concertation. Nous discutons d'ailleurs avec, pas le gouvernement, avec le président de la République, qui est d'ailleurs attentif, il faut reconnaître ça. Et nous attendons sa décision. Je pense qu'il a pris le temps de la réflexion. Et je pense qu'il a pris le temps de s'informer. Il n'est pas dit que le pire soit certain.
En ce qui concerne la droite, enfin les Républicains, Patrick Devedjian, votre parti, comment vous trouvez Laurent Wauquiez, la manière dont il a repris en main
Suis dans l'opposition à l'intérieur de ma formation. Je reste dans ma formation, je suis un peu comme Léon Blum, après le congrès
vous
de Tours.
Vous gardez la vieille maison.
Je garde la vieille maison.
Il y en a qui sont partis de la vieille maison aussi.
Et avec une autre philosophie que celle qui domine.
Mais apparemment, malgré tout, on voit que sur le mouvement de protestation un peu général qui se met en place ici, il pourrait avoir plus de possibilités peut-être de rebondir électoralement. On l'a vu, deux élections partielles récemment. Vous y croyez que ce positionnement politique, est-ce que ce n'est pas le bon pour la droite en tout cas?
Je ne le pense pas. Je ne pense pas qu'il faille courir derrière l'extrême droite. Ça me paraît pas indispensable. Je ne pense pas qu'il faille reprendre ces thèmes, ni de près ni de loin. Je pense que les problèmes qui sont posés à notre société sont d'un tout autre ordre et que ce n'est pas une bonne réponse.
Voilà, donc vous n'allez pas, pour satisfaire Alain Touraine, faire réémerger une droite d'opposition au président de la République?
Ben, écoutez, ça viendra peut-être, en tous les cas, mais pas sur cette thématique-là.
Merci beaucoup Patrick Devedjian d'avoir accepté de venir dans ce studio malgré la neige. Il y a encore 10 départements qui restent en vigilance orange à la neige et au verglas aujourd'hui jusqu'à donc au moins le début de l'après-midi. Lyon, l'Aube, les départements d'Île-de-France, Paris, Petite-Couronne, donc Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne et Val-d'Oise. Température 0 à 3 degrés sur la moitié nord, 4 à 7 degrés sur la Bretagne et le sud, jusqu'à 8 et 14 degrés de la Provence à la Corse, mais ça devrait donc beaucoup baisser dans la nuit, notamment en région parisienne, peut-être sous les 10 degrés. Édition qui s'achève, réalisée avec Yacine Bouzard. Prochain journal 18h, Aurélie Kiffer.